Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, deux westerns.
Tu viens pas avec nous?
You born with us?
Je voudrais bien.
I'd like to.
Il y a quelque chose qui se passe là-bas dans l'ouest et je voudrais essayer d'apprendre ce que c'est.
If you feel you got the room.
Si vous avez une place pour moi.
Il était une fois dans le rendez-vous ce soir en direct sur France Culture. Il sera question de western, de polar, de scénario, de récits historiques, de John Ford, d'expressionnisme allemand et même de Charles Bronson. Avec Fabien Nury qui signe les scénarios de Silas Corey, La mort de Staline ou encore de Il était une fois en France, des bandes dessinées entre récits historiques, polar et western. On le reçoit ce soir à une semaine de son exposition au Festival d'Angoulême. Benoît Lagan.
Et avec Nury, adepte des anti-héros, on aura l'occasion de vérifier entre autres comment un homme peut transporter 17 kilos d'héroïne pure d'une valeur d'un demi-million de dollars, avoir exactement 21,80 $ en poche, noter l'ironie de la chose et se mettre en marche.
Il se régale. 19h30, c'est la chronique de Thomas Clerc qui met ce soir à son programme. Thomas ?
Charles.
Un peu plus peut-être ? C'est quoi ?
Attendez votre heure.
19h30, 19h35, plateau John Ford avec Jean-François Roger. Le programmateur de la Cinémathèque de Paris à Paris refait le parcours d'un cinéaste prolifique qui a contribué au renouvellement du western américain, de La prisonnière du désert à Qui a tué Liberty Valance, avec en sous-texte la nostalgie du 19e siècle. Lucille Comeau qui, je le signale, parce que ce soir je suis très vestiaire, a chaussé ses bottes de Pocahontas.
Portrait d'un réalisateur qui tournait vite 3-4 films par an et dans tous les genres, du western à la comédie, du documentaire au film historique.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture du OS Fez, nu ce soir, que l'on ouvre avec le son du jour.
Au Chili, la haine et la peur s'abattent sur le pays. Les dénonciations se multiplient, c'est le temps de la suspicion. Une forme de violence que le poète Pablo Neruda avait dénoncée. Ses obsèques se sont déroulées avec ferveur, tandis que du monde entier, des télégrammes de condoléances sont adressés à Madame Neruda.
Neftali Reyes, le nom réel de Neruda, avait été ambassadeur du Chili en France dès l'origine du gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende. Il avait quitté Paris l'an dernier. Il venait de recevoir le prix Nobel de littérature.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et il date de 1973.
Oui, là c'est un sujet du journal télévisé qui évoque donc la mort et les obsèques de Pablo Neruda. Vous l'entendez, alors le ton est assez grave. Tout le monde est très triste en plateau. Le général Pinochet vient de prendre le pouvoir au Chili à ce moment-là et donc Neruda meurt brutalement à l'âge de 69 ans, alors qu'il avait tout un peu pour devenir le leader de l'opposition chilienne. Dès le début, la famille et en particulier le chauffeur de Neruda conteste la version officielle, soupçonne en fait un empoisonnement. Mais l'écrivain est déclaré mort officiellement d'un cancer de la prostate. Aujourd'hui, le Chili annonce son intention de rouvrir l'enquête sur le décès du poète et diplomate. Alors, je rappelle qu'à la demande de sa famille, son corps avait déjà été déterré en 2000 et que le service médico-légal chilien n'avait trouvé aucune trace de poison. La famille contestait ces résultats et aujourd'hui, elle salue donc cette annonce du gouvernement chilien. C'est la première fois qu'une institution étatique s'engage à chercher la vérité sur la mort de Neruda, a commenté le neveu de Neruda, l'avocat Rodolfo Reyes. Connaître cette vérité est nécessaire, pas uniquement pour notre famille, mais aussi pour le Chili et pour le monde entier.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. En Belgique, le musée Hergé devait inaugurer aujourd'hui une exposition en hommage à Charlie Hebdo, présentant des dessins et des documents sur les caricaturistes assassinés. Mais le musée a finalement renoncé à ouvrir l'exposition.
Oui, alors c'est Nick Rodwell, l'administrateur de Moulinsart, qui est un petit peu l'héritage d'Hergé, qui a eu cette idée de rendre hommage au dessinateur de Charlie Hebdo dès le lendemain de la tuerie, en fait, dans le musée Hergé, qui se trouve à Louvain-la-Neuve, donc en Belgique. En effet, Hergé a été caricaturiste. Il connaissait très bien Wolinski et aussi Cabu. Alors, donc, Nick Rodwell s'est lancé corps et âme dans ce projet. Sauf qu'en Belgique aussi, la tension est vraiment montée ces derniers jours. Une opération antiterroriste à Verviers a fait 2 morts la semaine dernière. Et le niveau d'alerte est monté à 3. Et monter une telle expo dans ces conditions nécessitait des mesures de sécurité énormes. Nick Rodwell n'avait pas anticipé cela. Il reconnaît aujourd'hui qu'il a été un peu naïf.
L'attaque à Paris, c'était le 7 janvier. On a terminé une exposition le 10-11, c'était le 10 avant l'attaque à Verviers en Belgique. Monter une exposition en moins que 2 semaines avec la collaboration de la CBBD à Bruxelles et le BNF à Paris, c'était phénoménal. On n'a pas pris en considération qu'on doit informer le bourgmestre ou la police ou d'autres autorités parce qu'on a l'impression qu'on est chez nous. Mais le monde a évolué et on doit prendre en considération qu'on est à niveau 3 sur 4 comme alerte. Et quelque part, c'était une évidence qu'on ne peut pas ouvrir cette exposition. C'est trop risqué et je ne peux mettre en danger la vie des autres. Et j'ai ignoré ça. J'assume la responsabilité.
C'est finalement en rencontrant la police et le maire de Louvain-la-Neuve que l'équipe du musée Hergé a fini par renoncer.
Oui, le bourgmestre, comme on dit là-bas, hein, c'est le nom pour le maire de Louvain-la-Neuve, a été obligé en fait de mettre en place ces mesures de sécurité. Il se dit pourtant très triste. Lui, il se définit comme un fervent défenseur de la liberté d'expression. D'autant que selon lui, cette exposition n'a vraiment rien de provocant.
S'agissant du contenu d'exposition, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y a aucune religion, aucune confession, quelle qu'elle soit, qui est particulièrement ciblée. Les lettres que l'on peut voir, les photos que l'on peut voir dans cette exposition n'ont franchement aucun caractère offensant. Bien sûr, c'est le style Charlie Hebdo, donc il y a son impertinence qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on sent que c'est un témoignage de sympathie, d'amitié, de Hergé. Autre chose, bien sûr, est la manière dont l'événement pourrait être présenté, qui, lui, pourrait susciter effectivement un sentiment d'étonnement, voire d'agressivité. Et si on envisageait d'ouvrir l'exposition dans les prochains jours ou les prochaines semaines, qu'on soit attentif à la manière de communiquer, tout simplement.
Cette annonce survient alors qu'une autre exposition consacrée à la censure a déjà été fermée la semaine dernière.
Oui, c'était dans le centre culturel de Valkenrath qui proposait depuis le 7 janvier, jour de la tuerie, un projet intitulé La bibliothèque insoumise, donc sur le thème de la censure. Le 16 janvier, le centre culturel a décidé de la fermer, comme ça, unilatéralement. Une décision très critiquée par plusieurs des gens qui participaient à cette exposition, comme Nicolas Vado, dessinateur de presse dont plusieurs dessins étaient présentés.
C'est une expo qui a été prévue de très longue date, et c'est vraiment du surréalisme à la belge d'avoir une expo sur la censure qui s'auto-censure sans avoir reçu de menace. Je trouve ça quand même assez fort, quoi. C'est le moment où il ne fallait pas faire ça. Pour ce qui est du musée Hergé, là, je peux comprendre parce que ça a été fait un peu dans la précipitation. Donc là, c'était peut-être pas le moment de mettre de l'huile sur le feu parce que c'était vraiment par rapport à Charlie Hebdo. Mais l'autre expo, c'était sur la censure. Alors, il y avait des trucs de Charlie Hebdo dedans. Mais en plus, ils n'ont pas reçu de menace. Ils l'ont fait à titre préventif. Et commencer à s'auto-censurer à titre préventif, là, c'est vraiment dire aux terroristes, bah, continuez, vous avez gagné.
Voilà, alors en tout cas, dans le cas de l'exposition en hommage à Charlie Hebdo dans le musée Hergé, rien n'est définitif puisque Nick Bodwell et le bourgmestre de Louvain-la-Neuve indiquent que si le niveau d'alerte redescend en Belgique, l'exposition pourrait ouvrir ses portes dans quelques jours ou donc dans quelques semaines.
Et tout de suite, Zoé, on passe au bref.
Et l'on ouvre avec les excellents chiffres de fréquentation des 97 sites gérés par le Centre des Monuments Nationaux. 9 500 000 personnes, un peu plus que ça, ont visité en 2014 ces 97 sites, ce qui fait donc du CMM le premier opérateur culturel français. Avec près d'1 800 000 visiteurs en 2014, c'est l'Arc de Triomphe qui reste le monument le plus visité, suivi par l'abbaye de Mont-Saint-Michel et par la Sainte-Chapelle.
Tout ça sur Internet.
Tout ça sur Internet.
Le Livre de Poche publie un ouvrage collectif, Nous sommes Charlie.
Il sort le 5 février, il réunit près de 60 écrivains autour de la liberté d'expression. On y retrouve des textes de Voltaire, de Victor Hugo et puis d'auteurs contemporains, qu'il s'agisse de romanciers, philosophes ou psychanalystes. Le spectre est très large, on va de Caroline Fourest à Bernard Spivot, en passant par Catherine Pancol, Frédéric Bédé, Philippe Claudel ou encore Jean-Paul Enthoven.
Madonna remercie le FBI et les autorités israéliennes pour leur offensive anti-piratage.
Et oui, car Madonna avait dû avancer la sortie de son album Rebel Heart, dont la sortie était prévue en mars. Elle a fini par le sortir en décembre puisqu'il avait fuité sur Internet. Le pirate informatique âgé de 39 ans a été arrêté en Israël après une très grosse enquête. Il avait réussi à pénétrer dans les ordinateurs de plusieurs artistes. Il est donc accusé d'intrusion illégale dans des ordinateurs, de vol de propriété intellectuelle et de fraude. Et sa dernière victime en date, c'était Björk, qui a sorti l'intégralité de son album piraté hier sur iTunes.
Et la dernière.
C'est une histoire de racisme, de guerre en Irak, de cinéma ou comment les Oscars finalement restent une cérémonie éminemment politique. Je vous rappelle que les nominations ont été dévoilées il y a 2 semaines et qu'elles sont plus que jamais polémiques. Alors chaque année, il y a toujours une petite discussion autour de ces nominations. Mais là, la polémique ne cesse d'enfler. L'Académie serait bien trop WASP. Et oui, car sur les 20 élus de la catégorie meilleur acteur, meilleure actrice dans un premier ou second rôle, aucun noir, aucun latino. C'est une première depuis 1998. Chaque année, ces nominations suscitent des interrogations. Là, c'est encore pire. En fait, la polémique se focalise sur deux films. Selma, qui raconte l'ascension de Martin Luther King au pouvoir. Acclamé par la critique, le film n'a reçu que deux nominations. Meilleur film et meilleur BO. Rien pour l'acteur principal, rien surtout pour la réalisatrice, qui est pourtant une femme noire, ce qui serait un premier symbole assez important alors qu'on sort à peine de Ferguson. À l'inverse, l'avalanche de nominations pour American Sniper, film extrêmement patriotique de Clint Eastwood, qui raconte le destin d'un soldat américain en Irak, est assez mal vu par certains. Le très anti-guerre Michael Moore a été pris à partie pour avoir souligné qu'un sniper qui abat aussi des civils n'a rien d'un héros. Et la magnifique, la délicieuse Sarah Palin, ex-candidate républicaine à la vice-présidence, lui répond aujourd'hui qu'il n'est même pas digne de cirer les chaussures des valeureux défenseurs de la liberté américaine. Alors voilà, ça risque de barder ce soir au Dolby Theatre de Los Angeles.
Elle a toujours des arguments.
Elle est parfaite. Elle est parfaite, cette femme.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités ? Fabien Nuri, Jean-François Roger, même sur les Oscars ?
Sur les Oscars, j'ai eu la chance, j'ai vu le film de Clint Eastwood. Alors ? Il n'est pas si patriotard que ça.
Bah, quand même.
Le personnage est plus compliqué que ça.
Oui, mais...
On peut quand même s'attendre de Clint Eastwood à ce que... C'est un peu un héritier de Ford, quand même. Il y a toujours de la contradiction dans son cinéma. Et donc, on ne peut pas réduire le film à ça. Voilà, c'est un film, quand on en sort, on est assez déprimé, on n'a pas envie de prendre le drapeau.
Thomas Clerc, vous voyez opiner du chef, mais peut-être était synthique.
Je pense à l'époque où Jean-Luc Godard traitait Clint Eastwood de fasciste, mais bon, c'était ancien.
C'est loin, ça.
Oui, mais enfin.
Oui, mais.
C'est vieux, c'est vrai.
Loin.
Il s'est ravisé ensuite.
Qui ?
Néo-fasciste.
Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, deux westerns.
Plateau héros ou escroc, ça dépend de l'employeur. Avec vous, Fabien Nuri, scénariste de bande dessinée, auteur du best-seller Il était une fois en France, qui a reçu l'album d'or, qui était la saga historique d'un ferrailleur juif collaborateur et résistant avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. La série avait été récompensée au Festival d'Angoulême en 2011. L'année dernière, c'était l'apparition chez Dargo de Tyler Cross, prix de la BD Fnac 2014, dont on attend le deuxième tome ou encore La mort de Staline. Bref, un auteur prolifique. On vient d'ouvrir là, juste sur un extrait de la dernière séance, car je lisais qu'enfant, vous deviez vous coucher à 21h et que vous ne pouviez donc voir que les 20 premières minutes des films diffusés à la télévision. Il vous fallait donc imaginez la suite avant de vous endormir. Et ce serait de là que serait né votre goût pour le scénario et la bande dessinée. Vous confirmez cette belle légende ?
Oui, j'en suis à l'origine, alors je ne vais pas l'infirmer tout de suite, mais oui, c'est à peu près vrai.
Vous vous souvenez d'un film en particulier, de votre propre suite ?
Oui, Hotel Corral, Règlement de compte à Hotel Corral. Pas My Darling Clementine, le Sturges, de 10 ans après. Je me souviens très bien que Kirk Douglas est face au miroir, qu'il tourne le dos à la salle, que Lee Van Cleef a sorti le flingue de sa botte et qu'il faut déjà y me coucher.
Et qu'est-ce que vous avez inventé pour la suite ?
J'étais mal tombé parce que j'avais appétit d'une sorte de duel entre Doc Holliday et Wyatt Earp et je connaissais pas du tout mon histoire de l'Ouest, donc il n'est jamais arrivé. Mais finalement, j'ai vu mon erreur en au moins 5 versions différentes.
Qu'est-ce que vous pensez de cette erreur, Jean-François Roger ? Par rapport au film.
De penser que Wyatt Earp allait s'opposer à Doc Holliday, mais c'est pas impossible. Dans le Ford, ils sont à deux doigts de se tirer dessus parce que Wyatt Earp pense que Doc Holliday est responsable de la mort de son frère. Donc il y a un moment de tension vite dissipé, mais on la sent cette tension. Quand même. Ils pourraient se tirer dessus. Ils sont tellement différents l'un et l'autre, en plus psychologiquement, que.
Mais ils ont un bon intégrateur négatif avec les Clanton qui, quand même, aident à les réconcilier. Ouais.
Benoît Lagan.
Alors Laurent, c'était quelques-unes de vos œuvres. Aujourd'hui, vous signez le troisième album des aventures de Silas Corey aux éditions Glénat, un détective aventurier des années 1910-1920, ex-reporter, une sorte d'Arsène Lupin décadent et violent, héros, escroc et tueur. En quoi ce personnage pourrait résumer finalement tout votre univers, Fabien Nuri ?
C'est une tentative de feuilleton de détective historique. Il y en a eu des dizaines d'excellents. J'essaie juste de faire le mien. Par exemple, dans la lignée des Fandorines de Boris Akounine, qui sont excellents, qui sont en Russie, ou alors le Bernie Günther, le détective privé de Philip Kerr. Et j'aime bien l'idée de faire des petits romans noirs en BD, alors avec un gangster américain comme Tyler Cross, ou alors dans une tradition de feuilleton de détective. Et c'est assez marrant parce qu'on me parle beaucoup de Lupin et de Holmes, par exemple, ce qui est probablement lié à l'époque et à l'apparat du héros, alors qu'en fait, Lupin, pas du tout. C'est beaucoup plus proche des détectives cyniques à l'américaine, beaucoup plus proche du Continental Hop ou de Bernie Günther. Winter, c'est clairement un héritier de Philip Marlowe, de Sam Spade ou du Continentalope. Et je crois que je suis un client de la version cynique du détective. Alors, c'est un héros, s'il a scoré, classique, mais il n'aime pas qu'on lui dise. Et il préfère être payé que se faire taper dessus, ce que je trouve assez légitime.
Vous avez à côté de vous Fabien Nury, notre stagiaire Hippolyte Babilotte, qui est un de vos fans. Il a une question pour vous.
Fabien Nury, quand on regarde vos différents albums, on voit un point commun entre vos personnages, même s'ils sont travaillés par différents dessinateurs. Donc il y a le braqueur Tyler Cross, Silas Corel, l'ex-soldat devenu détective privé, et le gouverneur de Moscou, Sergei Alexandrovitch. Tous sont des anti-héros. Qu'est-ce qui vous attire, vous, dans ce type de personnage ?
Eh ben, j'ai l'impression qu'en utilisant un anti-héros, je préserve l'incertitude du lecteur. C'est-à-dire qu'il pourrait vraiment lui arriver des malheurs. Alors que si je vous fais un héros solaire, vous savez qu'à la fin, il va sauver le monde, il va se taper la meuf, il va faire un grand sourire. Et qu'en plus, si c'est un film hollywoodien contemporain, la moitié des figurants seront sommés d'applaudir dans des scènes que généralement je trouve abjectes. Ça, c'est, on va dire, Emmerich, quoi. C'est quelque chose que je n'arrive pas à avaler. Et tout petit, déjà, Luke Skywalker m'emmerdait. Le nain, la force, sauver l'univers avec mon sabre, c'est des choses qui m'affligent. J'ai toujours aimé les personnages dangereux et mystérieux. Moi, gamin, je rêvais avec, effectivement, avec les Bronson de Il était une fois dans l'Ouest, avec Tony Montana et tout ça. Et donc, je ne fais que reproduire ce que j'ai aimé, en fait.
Jean-François Roger, vous seriez de quel côté ? Les héros solaires ou les anti-héros ?
Les héros, disons les personnages dont on ne sait pas si ce sont vraiment des héros. On va en parler sans doute tout à l'heure, mais un des meilleurs exemples, c'est John Wayne dans La Prisonnière du désert. C'est quand même un colon raciste, complètement paranoïaque, et qui part à la recherche de sa nièce parce qu'il veut la tuer, parce qu'elle a été souillée par les Indiens. Donc voilà le genre de personnage intéressant, effectivement. On ne sait pas où ils sont.
Fabien Nury, on est à une semaine de l'ouverture du Festival d'Angoulême où vous ferez l'objet d'une exposition, ce qui est rare pour un scénariste dit pur. Vous avez signé ou co-signé une quarantaine d'albums, récits historiques, polars, espionnage, western, chaque fois avec des dessinateurs aux univers graphiques très marqués, Pierre Allary, Bruno, Sylvain Vallée, j'en passe. Comment avez-vous pensé cet accrochage ? Quelle place au dessin et à vos matériaux de scénariste ?
Oh bah déjà, j'ai beaucoup de copains qui ont accepté de participer, donc ouais. Ce qui est super généreux de leur part et super sympa. Ce qui permet d'avoir beaucoup de styles de dessin au mur. Il y a 8 ou 9 dessinateurs qui ont accepté. Alors le truc, c'est qu'on essaye de vous inviter en cuisine. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas dessiner.
Là, vous êtes scénariste.
Donc j'écris et je participe à la conception du storyboard. Le storyboard étant le découpage en planches, et donc c'est un peu comme si on faisait le montage avant de tourner. Et alors c'est très important dans la BD parce que c'est ce qui détermine le rythme de la lecture. Si je vous fais des grands strips panoramiques façon cinémascope, je ralentis la lecture. Si je vous mets 4 cases dans le même strip côte à côte, j'accélère la lecture. Et de la même manière qu'avec un montage, de la même manière qu'avec la musique, on peut faire des ponts textuels dans la BD qui correspondraient à des ponts musicaux et ainsi de suite. Alors j'essaye, à travers l'exposition, de vous inviter en cuisine, c'est-à-dire de vous montrer les matières premières, les recettes et comment, avec les mêmes matières premières et les mêmes recettes, deux chefs différents font des plats différents. Et donc, on a beaucoup de planches commentées, beaucoup de storyboards, beaucoup d'extraits de scénarios. Je pense que c'est une exposition très dense. Et puis aussi, j'ai fait des vitrines avec des tas et des tas de romans, de DVD. J'ai fait des listes de tout ce qui avait pu m'influencer fortement dans les genres classiques que sont western, film noir, guerre, aventure, thriller, espionnage. Et puis, j'ai même une section drames et ovnis, c'est-à-dire tout ce que je ne pouvais pas mettre ailleurs.
Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans drames et ovnis ?
Il y a le gouffre aux chimères, il y a Colonel Blimp, ou alors des trucs italiens. Est-ce que c'est une comédie ou est-ce que c'est un drame ? Il y a Séduite et abandonnée, il y a pas mal de Pietro Germi. Je pense qu'on pourrait expliquer tout Sergio Leone formellement en montrant les films de Pietro Germi. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décalé Germi dans l'Ouest.
Et Fellini aussi, je dirais.
Oui, mais quand on voit le village sicilien de Séduite et abandonnée et l'année d'après le village de pour une poignée de dollars, on voit la vraie influence. Alors je mets ce genre de titre là.
Jean-François Roger.
Oui, c'est très juste, effectivement. On parle évidemment de l'influence du cinéma américain sur celui de Sergio Leone, parce que c'est un hommage, l'hommage d'un jeune Titi Romain qui aimait la culture américaine. Mais son cinéma vient aussi d'une tradition italienne qu'on retrouve dans le cinéma italien depuis longtemps. Effectivement, Germi a eu énormément. Voilà un cinéaste qu'on connaît peu en France, qui a eu énormément d'influence sur le cinéma italien, disons moderne. Et quand on pense à Leone, on pense aussi. Quand on voit les films de Leone, on voit qu'ils sont construits comme certains films de Fellini. Par exemple, Il était une fois dans l'Ouest, ça ressemble à la Dolce Vita. C'est des longs blocs de temps sédimenté comme ça. Mais c'est très intéressant ce que vous dites sur les plans larges qui ralentissent la lecture. On sait qu'au début de l'invention du cinémascope, les premiers films en cinémascope, donc en écran large, quand on les regarde, on se rend compte pour la plupart, ils sont un peu poussifs. C'est-à-dire que l'écran large a ralenti l'action dans le cinéma.
Ah, le Jardin du Diable, c'est pas poussif.
Comment ?
Le Jardin du Diable, c'est pas poussif.
Évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle.
Ouais, d'accord. Non, mais sur Léon, c'est vrai qu'on cherche beaucoup, du fait du western, les explications en Amérique, avec Johnny Guitar, par exemple, où il reprend tous les éléments dans Il était une fois dans l'Ouest. Mais moi, je trouve que le cousin le plus proche du Bon, la brute et le truand, c'est La Grande Guerre de Monicelli, quoi, voilà. Et, y compris en prod, hein, y compris dans la manière de faire ces plans larges, ces mouvements de grue, ces rails. On a vraiment des cousins, des cousinades formelles très, très, très intenses. Alors voilà, par exemple, là, je me retrouve à parler cinéphilie, alors qu'on parlait d'une expo de BD. Donc on essaye, encore une fois, de vous montrer d'où tout ça vient et comment on le travaille, comment on le triture, comment on fait plusieurs boards, comment on essaye de... ça revient un peu, mon travail avec les dessinateurs, à se demander où est-ce qu'on met la caméra.
42e édition d'Angoulême, et pourtant vous êtes le 5e scénariste à avoir une expo, donc après René Goscinny, Jean-Michel Charlier, l'auteur de Blueberry, Jacques Loeb pour Lon Sloan de Transpersonnage, ou Greg, encore Achille Talon. Donc le cinquième, et à propos de Greg et de Charlier, vous aviez déclaré par le passé que vous aimeriez avoir leur concision, et vous ajoutiez « mais eux se servaient souvent des textes narratifs, nous n'employons pas tout à fait le même langage ». Quel est votre langage, Fabien Nury ?
Ah bah je m'y suis mis, moi je faisais beaucoup de continuité dialoguée très cinématographique, et puis du coup parce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'était de me mettre au narratif. Alors ça a donné Tyler Cross, et en gros ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le contenu de 3 albums de 46 pages et on en a fait un de 90, avec des chapitres bien denses. Et le narratif, si vous voulez, c'est l'équivalent de la voix off au cinéma, et c'est ce qui vous permet d'éviter tout ce qu'on va appeler ouverture de porte ou dialogue idiot tel que « il faut qu'on parle ». Alors ça, vous le coupez. Et une fois que vous avez coupé tout ça, normalement, vous gardez que les choses intéressantes. Et en plus, avec un narratif, vous pouvez, dans la BD, utiliser des armes qui, pour le coup, dérivent du roman et pas forcément du cinéma. Et dans Tyler Cross, les narratifs qui permettent de passer d'un point de vue à l'autre de manière non chronologique, de manière, alors je vais encore citer un exemple cinématographique, mais romanesque, Lionel White, L'ultime razzia, adapté par Kubrick, fait ça. Et, sauf que Kubrick, lui, il voulait pas mettre de voix off, je crois, et on l'a forcé. Moi, on m'a pas forcé, j'ai mis une voix off et ça m'a beaucoup servi, puisque à la fin, je peux même faire la voix off du serpent. Donc c'est rigolo de pousser ça le plus loin possible formellement. Puis on essaye encore une fois de moi c'est les auteurs que j'adore, c'est Richard Stark, donc c'est Donald Westlake. Richard Stark, il a fait tout un chapitre sur le point de vue du perroquet dans sa cage, quoi. Et le roman s'appelle Demander au perroquet, et c'est super, quoi. Il y a même là, je vous pose la question, vous trouverez la réponse. Pourquoi irait-on assassiner un perroquet?
Pour qu'il ne parle pas.
Exactement.
Rien. Quand je veux.
Quel scénariste.
Mais justement, comment vous êtes entré dans le monde de la bande dessinée, Fabien Nury?
Logique de plaisir. J'ai fait des études de commerce et je m'ennuyais. Donc je me suis dit qu'écrire était une bonne idée pour la BD ou pour le film, qui étaient mes deux passions. Et puis quand on écrit, au moins ce qui est bien, c'est qu'on est le premier, quoi. Les autres, ils arrivent après pour triturer votre texte. Et alors du coup, parti de là, je savais à peu près quoi faire, il me restait à savoir comment. Alors, l'avantage des écoles de commerce, tout ça, c'est qu'on fait des stages, par exemple. Alors, j'ai eu le droit de faire des stages chez Glénat, par exemple. J'ai piqué plein de BD. Et puis, j'ai pu côtoyer quelques auteurs et tout ça. Après, j'ai fait des stages, j'ai fait un peu de market, un peu de pub, tout ça et tout. Puis, j'ai dérivé lentement vers le truc, tout en écrivant sur mon temps libre. Puis, à la fin, j'avais plus que du temps libre et j'écrivais, j'en vivais.
Écrire, ça n'aurait pas pu passer par le roman ?
Quand j'adore un roman, je me demande comment l'adapter. Alors, je me dis que je manque de maturité.
Benoît Lagan.
Vous parlez beaucoup de cinéma et d'ailleurs vous travaillez sur un projet d'adaptation cinématographique de votre grande série Il était une fois en France, en clin d'œil au film de Sergio Leone. Et je crois que l'une de vos références esthétiques serait une série télévisée, Boardwalk Empire, centrée sur l'Amérique des années 20 et la Prohibition. C'est une série produite par Martin Scorsese, c'est pour la chaîne câblée American HBO. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est ce genre-là que vous rêveriez de faire au cinéma en adaptant Il était une fois en France ?
Alors... Il était une fois en France, c'est une histoire vraie qui parle d'un immigré qui, dans un milieu qui est en fait le gangstérisme à travers l'occupation, pendant, avant et après, évoque tout un pan de notre histoire. Donc on l'a appelé « Il était une fois en France » parce que ça nous rappelait un autre petit immigré qui s'était hissé. Voilà. Et d'une certaine manière, pour les criminels de carrière, l'occupation française a eu des similitudes avec la prohibition, dans la mesure où ça a été un facilitateur de certaines fortunes. Voilà, et ça a dessiné la carte du crime en France pour les 30 années qui ont suivi. Donc il y avait tout ça. Après, Boardwalk Empire, oui, parce que les gars, ils font beaucoup avec finalement des budgets raisonnables. Donc on essaye de voir comment ils ont fait. Maintenant, moi, quand j'ai écrit « Il était une fois en France », c'était pas sorti encore, Boardwalk Empire. Alors, pour l'adaptation, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment compliqué aujourd'hui de faire des films d'époque et des films noirs et des anti-héros. Alors, les trois en un, c'est vraiment super, super compliqué.
Vous êtes super, super, super fort, alors. Parce que c'est ce que vous faites.
Non, en BD, j'y arrive. Ouais. En film, j'en ai écrit 10 ou 15, des comme ça, qui ne se sont pas faits à date. Donc, je vais en faire 10 ou 15 de plus, et puis peut-être que j'y arriverai. Mais du coup, je suis bien content d'avoir la BD, parce que c'est un espace de liberté assez prodigieux de ce point de vue-là. J'ai un truc sur la guerre du Rif, très l'homme qui voulait être roi, tout ça. Mais vous n'avez pas la moindre chance de vendre ça à une chaîne de télé de nos jours. Et je peux le faire en BD. Et je suis hyper content de pouvoir faire plus du David Lean que du Lucas. Voilà, ça, c'est vrai, c'est cool.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Fabien Uri. I want to ride again on the 310 to Yuma. That's where I saw my love, the girl with the golden hair. Not a word between us was spoken, no, the silence never was broken. But before... Identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Fabien Uri.
C'est la BO transformée. Les paroles sont modifiées par Frankie Lane de 3h10 pour Yuma, le film de Delmer Daves de 1957 avec Glenn Ford, Evan Efflin et Leonora Dana, je crois.
Pour quelle raison l'avez-vous choisi ?
Le film, il est vraiment sublime. Le vrai. Je trouve que le remake est assez neuneux par rapport à l'original. Et c'est un de mes westerns préférés. C'est une chanson que j'adore. J'écoute souvent ça en travaillant. Donc, c'était des raisons assez simples. Et alors là, Van Efflin, le paysan, c'est un héros positif où j'adore. Parce que je crois totalement à sa rédemption, au regain de sa dignité. Et je ne me lasse pas de ce film. Et d'ailleurs, même la VF est presque meilleure que la VO. Et parce que c'est une VF des années 50. Et par exemple, quand Glenn Ford est vraiment abominable avec lui, il lui dit « You've got a real twisted mind ». Et bon, ok, vous avez l'esprit tordu, quoi. Alors qu'en VF, c'est « Vous êtes une créature du diable
». Il faut qu'on parle. Jean-François Roger, vous partagez cette admiration ?
Oui, c'est un très beau film. C'est un film. C'est un des rares films où la psychologie, ça marche avec le western. C'est-à-dire qu'on croit au parcours des deux personnages qui vont finalement aller l'un vers l'autre qui vont tous les deux se racheter d'une certaine façon. L'un va se sauver, l'autre se racheter. Et c'est un très, très beau film. Delmer Daves est un grand cinéaste, un peu méconnu, qui parfois avait le défaut d'être un peu sentimental. Mais là, pas du tout. C'est vraiment un film en plus très sec. Et on y croit du début à la fin, quoi.
La dernière question, Hippolyte ?
Oui. Autre point commun à toutes vos histoires, c'est le contexte historique qui est récurrent. Toutes les histoires se passent entre la fin du 19e et la première moitié du 20e. Pourquoi ce choix ?
Eh ben, j'ai pas choisi, ça s'est imposé à moi. Je suis une brêle en histoire à la base, puisque j'ai fait du commerce et que donc je suis bon en rien, mais je suis bon en imposture. Et du coup, j'ai commencé à étudier un peu l'histoire, notamment parce que j'ai participé au remake des Brigades du Tigre et j'ai découvert des mines sur l'histoire du XXe siècle. Et de là, c'est en me documentant sur les Brigades que j'ai trouvé l'histoire du crime. Ça a donné Il était une fois en France, et puis un jour, j'avais envie de faire un thriller sur le KGB. Je suis tombé tombé sur les circonstances de la mort de Staline, ça m'a fait hurler de rire alors que je m'attendais à quelque chose de dramatique, donc ça a donné la mort de Staline. Et ainsi de suite. Après, Tyler Cross, c'est pas historique, c'est plus un truc à travers tout le cinéma que j'ai aimé, que j'aime encore. Et donc, je fais des efforts timides pour sortir de cette période, pour aller... Je me suis aventuré timidement dans les 70s avec un 13 Mystery. Je suis allé au 19e siècle avec des histoires d'esclaves à Targul, où là, j'adore Mandingo de Richard Fleischer, ce genre de film-là aussi, quoi. Et j'essaye... Là, je vais tenter un mélodrame Second Empire. Voilà,
c'est de la science-fiction.
Je vais essayer. La SF, vraiment, je ne connais pas. Et j'ai fait des trucs contemporains, mais en général, c'était pour l'audiovisuel. Alors, ça a donné un téléfilm, ou alors ça ne s'est pas fait. Là, j'essaye une série contemporaine. Mais alors, il faut que ce soit loin. Il faut que ça me fasse voyager un peu. Le truc, c'est mon quotidien, quoi. Paris 20e, je ne vois pas pourquoi. Voilà.
Fabien Nury et Jean-François Roger, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique de Thomas Clair.
Le rendez-vous, la chronique.
Et comme chaque jeudi, mais ça va changer de jour, hein. Thomas Clair prend...
On me trimballe à gauche et à droite ici. Moi, vous pensiez que j'allais faire Charlie, eh bien vous avez tort. J'ai d'ailleurs commencé ma chronique de la semaine dernière par la même phrase, et il se peut que ça aille de même jeudi prochain, ou vendredi prochain, ou mardi prochain. Non, Charlie est encore trop chaud pour moi, pour vous, pour eux et pour nous. Et lorsque le temps sera venu de le chroniquer, eh bien tout le monde se sera remis à lire Le Parisien, L'Équipe et Closer. Ça doit déjà être fait d'ailleurs. La chronique est-elle l'art du show ? Elle en possède en tout cas les deux premières lettres. Je me suis donc rabattu sur Charles. Trimestriel, hiver 2015, sans oublier toutefois de procéder à un double achat chez mon marchand de journaux. Donnez-moi Charles et Charlie. J'aurais au moins réussi à faire sourire un commerçant aujourd'hui. En me dirigeant vers Charles, comme d'autres se sont rués sur Charlie, à contre-temps à mon avis, je conçois, j'ai bien conscience d'être névrotiquement attaché à la question du signifiant, comme on disait en linguistique et en psychanalyse, mon cher Laurent, des disciplines un peu occultées actuellement par la balistique et la géostratégie. Mais si Charles est un journal, c'est d'abord, j'y insiste, un prénom maître, dont Charlie est le diminutif. Et je me demande si les terroristes n'ont pas voulu abattre aussi insignifiant, pas du tout insignifiant, Charlie étant le fruit composite du français Charles et de sa version américaine. En effet, Charles est le prénom français par excellence, ou européen, un prénom splendide d'ailleurs, évidemment peu donné aujourd'hui. Il n'y a que 112 000 de nos compatriotes qui le portent, et il n'est placé donc qu'en 45e position, merci Wikipédia, sur la liste des prénoms publiés. On peut peut-être gager d'ailleurs que quelques futurs parents donneront à leur progéniture le prénom de Charlie par compensation, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une bonne idée, car comme disait Bertolt Brecht, on en parlait un peu tout à l'heure, malheur au pays qui se cherche des héros. Charles, venant de Karl, qui signifie « homme » ou « mâle » en vieil allemand, on comprend mieux que ce qu'on a voulu dégommer est aussi une virilité occidentale qui va de Charlemagne à Charles Martel en passant par Charles de Gaulle. Charlie, d'ailleurs, était parodiquement lié à la figure du général, ouais, qu'il avait raillé dans une couverture célèbre, « Balle tragique à Colombey ». Avant d'être censuré, le journal s'appelant alors « Harakiri » et portant déjà dans son titre une violence intrinsèque qui devait s'achever, hélas, rue Nicolas Appert, inventeur de la boîte de conserve. Mais la deuxième source onomastique de Charlie n'est autre que Charlie Brown, la célèbre BD créée par l'américain Schulz, Charles de son prénom. Charlie Brown, petit garçon intelligent et sensible, mais introverti, loser un peu déprimé, issu de la classe moyenne, presque un petit blanc, sympathique, quoique ou parce que doublé d'un chien. On voit donc que le signifiant Charlie est ce qu'en rhétorique on appelle, tenez-vous bien, un énantiosème, c'est-à-dire un mot qui a deux significations opposées, figure repérée par Sigmund Freud dans son génial texte « Des sens opposés dans les mots primitifs » 1929. Ce qu'on a tué, c'est un sujet double, doublement marqué par un signifiant haut, Charles, et un signifiant bas, Charlie, à la fois le chef mâle et sa dérision enfantine, et libertaire, Charlie étant donc la version irrespectueuse de Charles. Ça fait beaucoup, beaucoup trop finalement pour un seul être à la fois, comme caput veut dire tête et mort. Bref, si je dirigeais un magazine qui s'appelle Charles, je n'y traiterais que des gens portant ce prénom. Je passerais plus vite sur Charles Pasqua que sur Charles Aznavour, ou plus lentement sur Charles Bronson que sur Charles Bietri. Et j'accentuerais sur Charlie Chan. Or voilà que, sous le titre lisiblement jaune et joli de Charles, apparaît la tête d'un non-Charles, et même d'un non-Charlie, puisque c'est un Jacques. Ce numéro 12 de Charles est entièrement consacré, tenez-vous bien, à Jacques Chirac. Je suis peut-être un charlot, je refuse d'être un charlatan.
Des réactions, Jean-François Roger, Fabien Nury.
Je suis muet, là.
Fabien Nury.
Scotché.
Parfait, scotché, parfait.
Le rendez-vous.
Tu me fais faire un bout de chemin, mon vieux. Tu vois pas cet écriteau ?
Si, je le vois.
Mais un brave type n'a pas à s'occuper des choses qu'un salaud lui colle sur son camion.
Eh bien, plante-toi sur le marchepied jusqu'à ce qu'on arrive au tournant.
Plateau chevauché avec vous, Jean-François Roger, critique de cinéma, directeur de la programmation à la Cinémathèque française à Paris. Cinémathèque qui propose actuellement une rétrospective John Ford, à l'occasion de laquelle paraît un ouvrage que vous co-dirigez, John Ford, Penser et rêver l'histoire, chez Yellow Now. Une vaste rétrospective, puisque quand même John Ford a réalisé près de 150 films, dont certains ont été perdus. Vous projetez bien sûr les plus connus, comme Les Chevauchés Fantastiques, mais les moins appréciés. Je pense notamment à son dernier film, Frontières Chinoises. Les esthétiques sont diverses, les genres différents aussi, western, film politique, naturaliste, le documentaire, même la comédie. Vous dites, il n'y a pas un Ford, chacun a le sien. Vous, c'est lequel ?
C'est tout. C'est-à-dire que on peut dire l'être de John Ford, c'est que c'est à la fois un conservateur et un progressiste, c'est à la fois un militariste et un anarchiste. C'est-à-dire que c'est un homme qui a construit une œuvre contradictoire, et la contradiction, elle est au cœur de son œuvre. Si on aime simplement le Ford des années 30 qui fait des films qui ont des Oscars, qui fait des films qui...
Quatre fois oscarisés. Hein.
Ceux qui aiment les westerns de la fin, les westerns pessimistes, crépusculaires, etc. Je pense qu'on ne comprend pas. Vraiment, il faut aimer Ford dans son entier, comme un bloc, et dans toutes ses dimensions. Mais pendant longtemps, la cinéphilie se déchirait sur la valeur du cinéma de Ford. Ford a été abandonné à un moment donné par ceux qui aimaient la première partie de son œuvre. Il a été ensuite apprécié plutôt pour sa dernière partie. C'est ça. Donc il n'y a pas un Ford. Il y a un Ford. Il est unique. Et il y a pas il faut pas le prendre par morceaux. Il faut le prendre comme un bloc.
Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de consacrer une rétrospective à Ford?
Parce que c'est une œuvre qui nous regarde, c'est-à-dire que ce qui est très beau, c'est un grand artiste américain, on peut dire c'est l'équivalent de William Faulkner pour la littérature ou de Charlie Parker pour la musique. Enfin, c'est un des grands artistes que l'Amérique a produit. Alors quand on parle de l'Amérique, c'est quelqu'un qui a pensé son siècle, son histoire, qui a pensé l'Amérique, qui a pensé la nation américaine, qui a pensé la lutte des classes, qui a pensé les guerres de race, etc., qui a vraiment pensé l'histoire de façon, on peut dire, poétique. Voilà, il y a une vérité poétique dans le cinéma de Ford, et cette vérité poétique, elle s'affirme encore aujourd'hui avec des questions qui se posent encore aujourd'hui. Les guerres de classe, les affects raciaux, tout ça nous regarde encore, ça nous concerne encore aujourd'hui, et le cinéma de Ford continue de nous en parler. C'est pas nous qui voyons le cinéma de Ford vieillir, c'est le cinéma de Ford qui nous voit vieillir, et ça c'est donné aux grandes œuvres artistiques, quoi.
Lucille Comeau.
Jean-François Roger, vous en particulier, vous allez proposer dans quelques jours une conférence sur un film en particulier, La prisonnière du désert, un film de 59. On en écoute un extrait. On est dans le désert. John Wayne et ses comparses chevauchent avec au-dessus d'eux la menace d'un convoi indien.
Eh bien, mon révérend, j'ai l'impression que vous vous êtes laissé cerner.
Oui, et je pense justement au meilleur moyen de vous en sortir. Moïse, à combien d'ici à la rivière ?
Ah, moi, je suis baptisé, mon révérend. Ah, moi, je suis baptisé.
Et toi, espèce de vieux fou.
Merci, merci de ton cœur, cher ami.
Prépare-toi à te faire baptiser une seconde fois. Parce que quand je vais crier, il faudra que tu plonges dans la flotte le plus vite possible. Allons-y!
Ça se déchire en studio autour de cette œuvre, Lucille.
Qu'est-ce que ce film-là, en particulier, a de particulier pour vous, Jean-François Roger ?
C'est-à-dire que c'est un film très étrange. D'abord, ce qui est beau, c'est qu'en fait, il n'a pas été compris quand il est sorti. C'est un film qui a été vu au mieux comme un western de plus, et au pire comme encore un film raciste où les Indiens sont des sauvages et le héros est un blanc, etc. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, d'abord, que ce héros, il n'est pas si clair que ça. C'est un colon raciste, guidé par une seule obsession, tuer sa nièce parce qu'elle a été souillée par les Indiens. Il a cette idée-là. Et alors, il y a déjà ça, mais il est incarné par John Wayne, qui est a priori l'image de l'All American Hero, qui est incarne a priori au cinéma des personnages valeureux. Et en fait, là, c'est un névrosé, c'est un type qui va pas très bien. Et ça, c'est très très singulier dans l'histoire du cinéma, parce que en même temps, à aucun moment, Ford ne nous demande de juger le personnage. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas s'il faut être avec lui, s'il ne faut pas être avec lui. Parfois, il est drôle. Parfois, il voit très juste. Et puis parfois, il est complètement fou. Et donc, ça, il y a une singularité de ce film. La singularité de ce film, elle se situe dans le caractère indéfini du personnage principal.
Fabien Huré, pourquoi vous étiez en discussion avec Jean-François Roger quand on écoutait l'extrait ?
Non, mais je suis d'accord avec lui, c'est un film absolument magnifique, c'est un chef-d'œuvre absolu, mais donc il y a Ward Bond qui joue le révérend, qui est en quelque sorte l'autorité morale de la communauté de colons à laquelle appartient plus ou moins John Wayne, qui est insupportable. Ward Bond est un crypto-facho dont le vrai visage se trouve à mon avis dans Johnny Guitar, où on voit que derrière sa grande gueule il y a une profonde lâcheté. Et le fait est qu'en fait, une fois sur deux le film me bouleverse, et une fois sur deux le perso m'énerve, parce que une communauté de colons qui est suspecte de se placer sous l'autorité morale d'un tel salopard me paraît suspecte, et la nécessité paradoxale de la colonisation me paraît d'autant plus suspecte. Sinon, il n'y a que des trucs magnifiques, même sa chemise à carreaux et une tuerie à Wayne là-dedans. Ouais, donc, voilà. Celle-là, elle est dingue.
En Vichy, oui.
C'est-à-dire que... vous avez parfaitement raison, mais cette communauté de colons, elle n'est pas super sympathique. Ils sont tous racistes. Le charmant personnage joué par Vera Miles, qui va se marier avec Martine Paulet, elle lui dit, quand l'autre veut chercher la nièce, il dit, mais il faut lui mettre une balle dans la tête. La jeune première, elle veut qu'on tue la nièce de John Wayne parce qu'elle est devenue indienne. Et donc, c'est normal que ces gens-là se mettent sous l'autorité d'un moine soldat. Il est à la fois un pasteur de l'église et en même temps, c'est le chef des rangers, c'est-à-dire le chef d'une milice. C'est pas un shérif, c'est le chef des rangers du Texas. Et donc, tout ça, me semble-t-il, nous fait comprendre comment cette psychologiquement et idéologiquement cette communauté fonctionne. Et oui, elle fonctionne par la violence et par l'idée que cette violence est messianique. On est envoyé par Dieu contre les sauvages. Et Ward Bond, effectivement, tout salopard qu'il est, il incarne parfaitement cette image-là.
Lucille.
John Ford a réalisé 142 films, 53 ont disparu, notamment une grande partie des films muets qu'il a réalisés dans les années 20, et notamment le premier qui s'appelait The Tornado, qui date de 1917. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi il ressemblait, ce premier?
Alors on a une idée de ce à quoi ressemblent les premiers westerns de John Ford, parce qu'il y en a un autre qui n'a pas disparu, qui s'appelle Straight Shooting, qui date de la même année. Donc c'est un western avec Harry Carey, donc un acteur du muet que Ford aimait beaucoup, qui a beaucoup tourné avec Ford. Et ce qui est frappant, c'est quand on voit Straight Shooting et les films de ce moment-là, les westerns que Ford tourne entre 1917 et 1920, c'est avant qu'il travaille pour la compagnie de William Fox, déjà ils annoncent tout ce qui va arriver après. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que stylistiquement ou plastiquement, l'œuvre de Ford ne va pas tellement évoluer. C'est un cinéaste qui, tout le long de sa carrière, va continuer de tourner comme s'il tournait des films muets. Et ça, ce qui en fait la modernité, évidemment, dans les années 50. Quand vous regardez le début de La Prisonnière du désert, avec cette porte qui s'ouvre sur Monument Valley, le personnage de féminin de dos qui s'avance, le cavalier qui arrive, il y a déjà ce plan-là dans les westerns de 1917. Et donc, c'est très impressionnant, parce qu'on a l'impression d'un cinéaste ou d'un artiste qui, stylistiquement, a suivi toute sa vie la même ligne, mais qui, en suivant cette ligne, a absorbé tous les bouleversements de l'histoire du XXe siècle.
Pourquoi est-ce qu'on compare l'esthétique fordienne à l'expressionnisme allemand ?
Alors, oui, d'abord, il a été effectivement influencé par l'expressionnisme allemand dans les années 20, quand il commence à tourner pour la compagnie de William Fox. Il a des budgets plus importants, il tourne Le Cheval de Fer, une épopée sur la construction du chemin de fer entre la côte Est et la côte Ouest, etc. Et il est influencé, on le sait, par un immense cinéaste qui est Murnau. Et on peut dire que l'expressionnisme chez Ford, qui est plus ou moins ostensible, on sait qu'il va faire des films comme Le Mouchard ou Dieu est mort, où là il y a un travail sur l'éclairage, un éclairage très contrasté, des ombres, des symboles un peu gros, comme ça qu'on voit sur l'image. Mais en fait, l'expressionnisme chez Ford, c'est presque plus discret. C'est que dans un plan chez Ford, le monde est dans le plan. C'est pas un cinéaste qui prend une portion du monde, c'est un cinéaste qui veut mettre le monde entier dans un plan. Chaque plan contient le monde entier et contient en fait l'idée. C'est un cinéaste de l'idée en fait. C'est à la fois un cinéaste de la trace documentaire, on enregistre quelque chose, et en même temps il faut qu'il y ait l'idée. Prenons par exemple les cours d'eau, les fleuves chez John Ford. Il y en a plein des plans où un personnage médite au bord d'un fleuve, ou un fleuve qu'il faut traverser, un fleuve calme ou tumultueux. C'est une figuration de l'histoire qui va emporter ou pas le personnage, de l'histoire à laquelle va ou non faire partie le personnage. Parce que le héros fordien, là, pour le coup, c'est pas un héros américain. C'est-à-dire que le héros américain, il est ce qu'il fait. Mais chez John Ford, c'est plutôt, là, pour le coup, on parlait des anti-héros, c'est des gens qui n'ont pas envie de faire la guerre, c'est des gens qui n'ont pas envie d'agir et qui savent peut-être que quand on fait quelque chose, on peut être dépossédé de son action. Et donc, c'est ça pour moi, Ford, je pense.
Fabien Nury ?
Il y en a un que j'adore, j'espère que vous le passez, c'est sur la piste des Mohawks.
Bien sûr.
Où on voit où c'est une guerre et c'est le point de vue féminin qui est choisi. J'ai adoré ça, cette idée-là était prodigieuse. Ce couple de colons s'installe. Alors là, pour le coup, il me fait totalement vivre avec la communauté, à l'inverse de la prisonnière du désert. Et quand le type part à la guerre, on reste avec elle. Et quand la colonne de blessés revient, on attend tout le temps que là, c'est une marée humaine, là. Et tout le temps, on ne sait pas si le mari est de retour. Et je crois qu'il y a une anecdote hyper drôle avec Ford, avec le producteur, je ne sais plus qui c'était, qui voulait lui faire tourner une scène de bataille. Et un jour, il lui a fait « je l'ai faite hier ». Alors, pour l'autre, c'était sa grande scène de bataille, il fallait y mettre 3 semaines. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a assis Henri Fonda dans un hosto de sorte d'hosto de campagne. Et il lui a fait raconter la bataille. Et juste il y a un ou deux Fonda raconte ça hyper bien et c'est une scène d'enfer et cette économie narrative là fait vraiment rêver et on voit d'ailleurs on voit tout un tas de plans qui sont repris directement et de scènes dans le dernier des Mohicans de Mann et c'est le film de la fondation des États-Unis pour moi celui-là spécifiquement il est super beau.
Lucille.
Pendant longtemps, les cahiers du cinéma ont méprisé Ford, lui ont préféré beaucoup Howard Hawks, qui était un peu les deux. Qu'est-ce qui se joue dans cette opposition-là entre Hawks et Ford ?
Chez Hawks, voilà, vous êtes ce que vous faites. C'est-à-dire, en gros, dans Rio Bravo, John Wayne, il incarne un shérif qui a une fonction à remplir, qui a un rôle à remplir, et c'est ce qui le définit comme être. C'est pour ça que les cahiers préféraient Howard Hawks, parce qu'il n'aimait pas beaucoup l'expressionnisme dans les années 50, et c'est beaucoup plus cinématographique finalement de fusionner l'action et l'identité. Vous êtes ce que vous faites. Ça, c'est le cinéma. En gros, vous filmez quelqu'un qui agit. Si vous le filmez bien, vous filmez non seulement vous le filmez en mouvement, mais en même temps vous pointez son être. Tandis que chez John Ford, il aimait pas. Il savait que l'action ne suffisait pas à définir quelqu'un. Et en plus, enfin, c'est un cinéaste du XXe siècle. On sait toute la philosophie, la philosophie du XXe siècle est arrivée à l'idée que la technique a dépossédé l'individu de son action et donc de son identité, qu'on a beau faire quelque chose, enfin, je dis le XXe siècle, c'est déjà chez Hegel, en fait. En gros, vous faites quelque chose, mais vous ne savez pas quel sens a ce que vous faites dans l'histoire. Et ça, c'est John Ford. Alors, évidemment, c'est pas très américain. On est loin du pragmatisme, on est loin de l'idée que l'action, c'est ce qu'on est, agir, c'est être. On est loin de tout ça. Et donc, c'est moins cinématographique, voilà. C'est beaucoup plus... Ford, il y a du théâtre, il y a de la peinture... alors que Hawks, c'est totalement cinématographique. Et je pense que c'est ce qui explique, à un moment donné, la gêne de certains cinéphiles, dont les cahiers du cinéma, à propos du cinéma de John Ford. Évidemment, des réserves qui ont disparu à la fin des années 50, lorsqu'on a vu arriver des films comme L'Aigle vole au soleil, ou L'Homme qui tue à Liberty Valance, ou The Long Grey Line, Ce n'est qu'un au revoir, qui sont des films absolument ahurissants dans le système hollywoodien, qui sont presque des films expérimentaux. Et là, tout d'un coup, a vraiment surgi l'idée que John Ford est un artiste unique.
Pour conclure, on vous a demandé, comme à tous nos invités, de nous apporter un son qui vous a marqué. Un petit pas de côté, vous avez choisi ça.
Les jours de repassage dans la maison qui dort. La bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois. Avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre.
On n'en pense pas plus longtemps de l'extrait parce que notre Pocahontas nous a dit tout à l'heure dans le bureau que si jamais c'était trop loin, elle se mettait à pleurer. C'est une chanson qui l'a fait pleurer.
Oui.
Identification de ce son et pourquoi l'avoir choisi, Jean-François Roger ?
Alors, bon, ça n'a aucun rapport avec John Ford, pas vraiment, ou alors il faut
non, non, mais
à plusieurs heures.
Bien ce que vous
avez
demandé, justement.
Parce que Charles Trenet, c'est Charles. Non, c'est immense. Enfin, c'est quelque chose d'immense. C'est Charles Trenet, alors, c'est. Vous pouvez à la fois guérir et alimenter votre mélancolie avec Charles Trenet. C'est-à-dire que quand ça va pas bien, vous mettez du Trenet, ça va pas mieux, mais vous comprenez pourquoi ça va pas bien. C'est-à-dire que ce qui est formidable avec Trenet, c'est qu'on dit c'est le fou chantant, la joie, etc. Et en fait, ça ne parle que de la mort tout le temps. Et donc vous avez tout chez Charles Trenet, quoi. Et donc voilà, il faut s'en faire des piqûres régulières, quoi, pour pouvoir continuer à vivre, je sais pas, par exemple, oui.
Donnez-moi 4 plans.
Une fois que vous avez coupé tout ça, normalement vous gardez que les choses intéressantes.
C'est quand même un colon raciste complètement paranoïaque et qui part à la recherche de sa nièce parce qu'il veut la tuer, parce qu'elle a été souillée par les Indiens. Donc
tout petit, déjà, Luke Skywalker m'emmerdait. Le nain, la force, sauver l'univers avec mon sabre, c'est des choses qui m'affligent.
Il va falloir qu'on parle, hein, Fabien Nury. Merci à nos invités. Fabien Nury, l'exposition L'art du scénario selon Fabien Nury. C'est à partir de jeudi prochain au Festival d'Angoulême. Et toutes vos œuvres, dont le dernier tome de Silas Corret, sont disponibles aux éditions d'Argo et Glénat. Jean-François Roger, la rétrospective John Ford, c'est jusqu'au 23 février à la Cinémathèque française.
Une semaine de plus.
Une semaine de plus.
On a retrouvé des films, on en rajoute. Voilà.
Très bien. Et je signale que l'essai John Ford, Penser et rêver l'histoire, a paru aux éditions Yellow Now, Maison pour tous. Ça, c'était bien pour aujourd'hui. Demain,
contact. A show by Philippe Découvet and the DCA Company. Oh yeah.
Demain, une émission sexe. Non, pas du tout. Demain, une émission illusion d'optique avec le chorégraphe Philippe de Coufflet et la comédienne Judith Chemla. La désannonce, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Lagan, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture en Zoé Sfès, chronique Thomas Clair, à la prise de son Dauphard Guérit et Élise Leu, et à la réalisation Thomas Beau.
C'était un sans faute, comme les questions que vous avez posées. Je vous félicite.